Au Café Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamou.
Mesdames et messieurs, bonjour, merci de suivre ce programme au Café Service. Dès ce lundi 21 septembre 2009, eh bien, nous vous réservons beaucoup de sujets et nos invités seront là pour vous rendre service. Vous savez, au Café Service est là pour vous rendre service. Vous avez des problèmes, des préoccupations, eh bien, ne manquez pas de nous appeler. Premier sujet, suppression des enseignements classiques au CIDEP, Université Ouverte. Sachez qu'en République démocratique du Congo, il y a des milliers d'étudiants, parmi lesquels de nombreux travailleurs, qui ne pourront plus achever leur formation académique au CIDEP, Université Ouverte. Selon un arrêté ministériel datant du mois d'août dernier, les inscriptions au cycle de graduat, licence et doctorat dans les années de recrutement sont suspendues au sein de cette institution universitaire jusqu'à nouvel ordre. Quelles sont les autres filières susceptibles de permettre à ces étudiants de poursuivre leurs études? Nous en parlons aujourd'hui dans le Capi Service avec le ministre Macha Komamba. Il est ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Il sera là pour répondre à toutes vos préoccupations par rapport à la suppression des enseignements classiques au CIDEP. Fréquence des accidents sur la route Boma-Mwanda, eh bien, on signale une augmentation du taux des accidents sur la route Boma-Mwanda depuis sa réhabilitation, la réhabilitation de cette route. Le président de la FEC Mwanda, qui a livré cette information la semaine dernière à Radio Okapi, indique que cette route réhabilitée devient un danger pour les automobilistes. Selon lui, 3 à 4 accidents sont enregistrés chaque jour sur ce tronçon de 130 km. Pourquoi cette augmentation des cas d'accidents et quelles sont les mesures qui peuvent être mises en application pour prévenir les accidents? Nous en parlons dans Café Service aujourd'hui avec Val Manga. Il est expert en sécurité routière. Il sera là pour répondre à toutes vos préoccupations. Boutembo manque d'eau au quartier Vubangé et on signale que c'est depuis plusieurs mois. La régie des eaux qui devrait en principe fournir de l'eau aux habitants de ces quartiers n'est pas à mesure de le faire à cause de la vétusté de son usine et de sa tuyauterie. Pour aider la population à avoir accès à l'eau potable, une ONG locale demande aux ménages concernés de contribuer avec un montant de 80 dollars par famille. Comment cela va se faire? Comment ça va se passer? Que compte faire la régie des eaux en faveur de ses habitants de Vubangé? On en parle avec le responsable de cette société. Vous voulez réagir? Composez déjà le 081-890-63-94. Dans le cadre d'Action Plus aujourd'hui, on signale que la ville de Kalemi est toujours plongée dans le noir depuis près de 3 mois. C'est depuis le 7 juillet dernier. Et ce, malgré la réception de 4 générateurs depuis depuis quelques temps. Plus d'un habitant de cette ville s'interroge sur les raisons qui retardent le rétablissement du courant électrique à Kalemi. Alphonse Kitambala-Tabou, directeur du district SNEL, sera notre invité aujourd'hui. Et oui, vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas, appelez-nous au 081-890-63-94 pour poser vos questions. Vous voulez nous écrire notre adresse e-mail, c'est action@radiocapi.net. Et vous pouvez aussi nous envoyer vos SMS, faites le 081-070-2050. Dieudonné Nyangasa est à la mise en onde de cette émission. Thérèse Bassoubi assure la réalisation, Marcel Ngombo est à la coordination. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama et cette émission est supervisée par J.R. Ngembo.
Soucieux de vous servir, Radio Okapi met à votre disposition toute une équipe de reporters et de présentateurs. Ils voient ce que vos yeux ont appris à ignorer, s'intéressent à vos problèmes et surtout aux solutions possibles, s'inquiètent de l'absence de suivi et réfléchissent avec vous. Okapi Service, une émission qui vous met au centre des préoccupations, les vôtres, de lundi à vendredi, à partir de 9h, heure de Kinshasa.
Suppression des enseignements classiques au CIDEP, université ouverte. Vous savez, nous l'avons dit tout à l'heure, ils sont plusieurs, les étudiants parmi lesquels de nombreux travailleurs qui ne pourront plus achever leur formation académique au CIDEP, université ouverte. Selon un arrêté ministériel datant du mois d'août dernier, les inscriptions au cycle de graduat, licence et doctorat dans les années de recrutement sont suspendues au sein de cette institution universitaire jusqu'à nouvel ordre. Quelles sont les autres filières susceptibles de permettre à ces étudiants de poursuivre leurs études? Nous en parlons avec le ministre Macha Koumamba qui est déjà en ligne. Monsieur le ministre, bonjour. Alors, vous avez des préoccupations, appelez-nous déjà au 081-890-6394. Monsieur le ministre, vous pouvez rappeler quelles sont les raisons qui ont motivé à la suppression des enseignements classiques au CIDEP Université Ouverte?
Merci beaucoup. Le CIDEP est un service spécialisé du ministère de l'Enseignement supérieur. Il est important de rappeler que pour la première fois, c'est depuis le 19 décembre 72 que le CIDEP a été créé par une décision du recteur de l'UNASA de l'époque.
Oui.
Et en 74, il y a eu le règlement intérieur. Mais surtout, je pense qu'il faut retenir, c'est que le 3 octobre 1981, l'ordonnance-loi 025 de cette date a porté l'organisation générale de l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre,
oui,
et a défini le rôle de chaque secteur de l'enseignement supérieur. Les enseignements classiques sont du ressort des universités et des instituts, mais pour accomplir toujours la mission d'accompagner la société dans l'ensemble de différentes formes d'instruction, il y a des services spécialisés parmi lesquels il y a le CIDEP. Donc le CIDEP apparaît bel et bien dans l'ordonnance loi 025 en 1981 comme un des 5 services spécialisés du ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Et toujours restant dans la même logique, le 7 octobre 81, donc 4 jours après,
oui,
il y a maintenant une ordonnance spécifique portant création d'un service spécialisé dénommé Centre interdisciplinaire pour le développement et l'éducation permanente. Et la mission que lui assigne le législateur est sans équivoque, c'est être un lien entre les universités et la société à travers l'organisation des stages ou de recyclage afin en fait de permettre soit à l'administration publique, soit aux entreprises de mettre à niveau leurs travailleurs et leurs cadres. Donc, stricto sensu, voilà la mission qui n'a pas changé.
Oui.
De par et l'ordonnance loi 025 et par l'ordonnance 154 du 7 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que malgré le fait que la loi définit clairement et l'importance et le rôle du CIDEP, différents arrêtés ont commencé pratiquement à mettre de côté, pour ne pas dire ont mis complètement de côté, la mission que a été dévolue au CIDEP pour pratiquement en faire une institution d'enseignement classique et qui finira par, en 2000, être une université dite ouverte.
Oui.
Avec aujourd'hui plus de 400 sites. Et chaque site, quand vous l'examinez, vous avez minimum au moins ce qu'on peut appeler 2 facultés. Et donc, en fait, on se retrouve avec le réseau le plus vaste d'une université.
Oui.
Alors, comme si cela ne pouvait pas ne pas inquiéter, mais en identifiant les filières de formation, nous en dénombrons énormément. Déjà pour tout ce qui est filière technique à elle seule, on est à plus de 48. Alors, plus grand réseau d'enseignement supérieur universitaire, pratiquement sans aucun bien propre en dehors de Tshilingué où il y a le seul bâtiment qu'on peut aujourd'hui dire qu'il appartient au SIDEP.
Oui.
Sans professeur pratiquement, par rapport au nombre d'étudiants, les chiffres varient de 20 000 à 45 000 étudiants. Si nous prenons l'hypothèse de 45 000 étudiants, par rapport aux professeurs propres au SIDEP, c'est un professeur pour plus de 5 000 étudiants.
Alors, monsieur le ministre, on peut dire clairement que le SIDEP n'a pas répondu aux critères de viabilité, donc cet établissement n'est pas viable.
Il ne répond à aucun critère en termes de ressources propres en professeur,
oui.
En termes de bâtiment, en termes d'équipement didactique, et il sera important de connaître la catégorie des étudiants, même en termes de la qualité d'étudiants,
oui.
Pratiquement, il y a un grand nombre de ceux qui ne vont pas dans les auditoires. Il y a beaucoup de personnalités du domaine civil, militaire et sécuritaire qui sont des inscrits et qui ne vont pas dans les auditoires, mais qui sont diplômés à la fin de chaque année.
Oui.
Et là, le concept étudiant au salon, parce que finalement, ce sont les enseignants qui doivent aller vers ces personnalités, mais à la fin de l'année, ce sont ces personnalités qui ont le diplôme.
Alors, quels vont devenir tous ces étudiants qui ont déjà obtenu des diplômes du SIDEP et ceux-là qui étaient en cours de formation? Alors, vous avez des problèmes, vous avez des préoccupations, appelez déjà pour poser vos préoccupations. Notre invité est là pour vous rendre service, pour vous orienter. Nous avons déjà en ligne des auditeurs. Patience nous appelle de Kinshasa et Lévier Manoanoa de Kikwit. Nous commençons avec Patience. Bonjour.
Bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Justement, ce que vous venez de dire là, ma préoccupation, je suis en cours d'année, en deuxième licence déjà en communication. En fait, mon inquiétude serait de savoir les diplômes qui me sera délivré à la fin de cette année. Sera-t-il accepté ces diplômes ou bien je veux savoir la position du ministre par rapport à ça. Et puis deuxièmement, je voulais savoir est-ce que l'État actuel du SIDEP ne peut pas faire l'objet pour que l'État puisse chercher, au lieu d'améliorer, au lieu encore de réduire le taux de l'université, il faut tenir compte de tous ces étudiants qui sont déjà là. C'est vrai qu'il est en train d'évoquer un problème très important, des étudiants qui ne sont pas dans l'auditoire et consorts, mais je crois que ça peut aussi être un acquis si on essaie de voir pour notre pays, aujourd'hui avec les réalités socio-économiques du pays qui ne permet pas à tout le monde d'aller le matin à l'université, et peut-être l'ISC et les autres universités qui font les soirs à ESL ne pourront pas suffire pour tous ces étudiants-là. Je crois que l'IDEB ne serait pas une aide pour l'université, donc. Mais des inquiétudes sont là.
Oui. Voilà, là, si vous pouvez répondre à la première question, vous êtes en deuxième licence.
Oui, je voudrais savoir oui. L'état de mon diplôme pour cette année. Quel sera-t-il? Sera-t-il accepté par l'État ou comment? En fait, ça m'a quand même dit.
Voilà, merci Patience pour votre préoccupation, monsieur le ministre.
Oui, voilà, elle pose une bonne question. Je pense que si on fait rapidement une analyse avec elle, combien de vrais professeurs, donc ceux que la loi reconnaît, à qui la loi reconnaît la qualité des professeurs, donnent cours, dans quel bâtiment ils se trouvent, et c'est un bâtiment propre, nous savons qu'il n'y a qu'à Tilingué, le matériel didactique, et donc elle va se retrouver finalement licenciée en sciences de la communication, mais en ayant été formé par qui et dans quelles conditions. Voilà pourquoi nous avons pensé que dans les mesures conservatoires, en tenant compte de cette volonté finalement des Congolais à étudier, je pense que c'est un désir légitime que nous devons, dans la mesure du possible, encourager, nous avons préconisé premièrement que les personnes qui se sentent aptes puissent déjà s'adresser aux institutions classiques pour leur faciliter. Ils doivent passer un concours et nous acceptons excessivement pour les étudiants du SIDEP de pouvoir accéder à ce type d'admission.
Donc, monsieur le ministre, vous voulez dire que Patience peut se rendre établissement qui forme les étudiants en communication
pour prendre un concours.
Oui, pour prendre l'inscription.
Moyennant concours. Oui, ça c'est parmi les mesures conservatoires parce que nous tenons d'un côté à ne pas minimiser la soif de jeunes étudiants congolais, étudiants, à avoir le savoir,
oui.
Mais nous ne voulons pas que ce soit une blanchisserie de ceux qui, pratiquement, qui ne vont pas, pour qui n'ont pas de professeurs, parce que si le Congo ne protège pas son diplôme, finalement, nous rendons mauvais service à notre jeunesse, à notre pays.
Oui, nous avons Aline Lévier et Manouanoa qui nous appellent de Kikwit, au Bandundu. Lévier, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, quel est votre problème?
Ok, je voulais demander un peu à monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire.
Donc, commencez par poser d'abord le problème. C'est quoi votre problème?
Oui, ma préoccupation est celle-ci.
Oui.
Monsieur le ministre, je suis étudiant premier graduat technique hospitalière. Bientôt, je vais aller à deuxième graduat. Alors, vous venez de suspendre les enseignements universitaires à la dite université. Alors, je peux changer directement une autre institution ou bien je peux continuer à consacrer à mes études universitaires jusqu'à deuxième licence. De deux, vous avez interdit immédiatement, catégoriquement, l'enseignement supérieur. Alors, les diplômes que j'aurai à la fin de mes études sera quelle sorte de diplôme? Parce que le SUDEP, dès aujourd'hui, n'est pas encore une université. C'est un simple de recyclage. Alors, les diplômes, dans un centre, les diplômes, c'est aussi pour un centre, mais ce n'est pas pour les études universitaires. Alors, quel sera mon diplôme? Est-ce que, lorsque j'aurai ce diplôme, on peut m'engager à chercher un emploi dans une entreprise quelconque annexe de ce? C'est pitoyable. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous pouvez m'assurer?
Merci Lévier et Manouanoa pour votre préoccupation, monsieur le ministre.
Oui, je pense que la réponse devra avoir deux volets. Il est dans quelle filière d'abord en premier graduat?
Il a parlé des techniques hospitalières.
Bon, non seulement nous avons supprimé l'ensemble de filières hospitalières, tout ce qui concerne la santé, que ce soit dans les établissements publics, comme le SIDEP, comme les universités, les systèmes qui n'ont ni professeur ni encadrement. Donc s'il tient à aller le plus loin, ce que je lui recommande, il doit absolument s'adresser à une institution qui a les professeurs, qui a les laboratoires, qui a les salles techniques. Si dans son environnement ces institutions n'existent pas, de toute façon elles ont été fermées, nous ne donnerons aucun diplôme à tous ceux qui aujourd'hui donne finalement les couteaux pour aller tuer la population, disant ils sont docteurs, ils sont infirmiers, ils sont ceci. Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux devant une machine qui pratiquement produit des hommes dangereux, mais qui ont l'étiquette de médecin, d'infirmier ou autre. Le gouvernement a décidé de privilégier, de protéger la santé de la population.
Oui.
Donc, le conseil que je peux lui donner, il ne faut se fermer, il faut qu'il s'adresse à une institution qui remplit des critères de viabilité. Nous l'avons dit, y a-t-il des professeurs, y a-t-il des bâtiments propres, y a-t-il des laboratoires, y a-t-il des bibliothèques? Si lui-même peut répondre à cette question,
oui.
Il faut qu'on ne doit plus aller là-bas. Nous avons fermé et on n'entre pas en arrière.
Voilà, Théodore nous appelle depuis Kindu, au Maniema. Bonjour Théodore. Théodore, vous êtes en ligne? Voilà, Théodore il n'est plus en ligne, peut-être qu'on va le retrouver tout à l'heure. Vous avez des préoccupations, appelez, posez vos préoccupations, notre invité est là pour vous rendre service. Alors, monsieur le ministre, pour ceux-là qui ont déjà des diplômes SIDEP, qui travaillent dans les entreprises, alors ces diplômes seront d'office considérés, qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement?
Je pense que dans les mesures conservatoires à l'issue du conseil des ministres du 22 juin, nous avions dit clairement que nous ne mettons pas en cause les diplômes antérieurs. Et quand je vois malheureusement la réaction des uns des autres, certains consciemment, d'autres manipulés, je pense que l'État a sa sagesse, parce que l'État reconnaît aussi avoir fermé les yeux longtemps devant la dérive. Nous avions pensé que dans les mesures conservatoires, nous ne pouvions pas remonter jusqu'à maintenant pour remettre en cause. Nous voulons remettre les compteurs à zéro. Et donc c'est pour cela que nous souhaitons que les gens comprennent que trop c'est trop, nous mettons un point d'arrêt, nous ramenons le SIDEP vers sa mission originelle en supprimant le SIDEP UO qui a pratiquement dénaturé la mission capitale du SIDEP, et nous pensons que ceux qui ont terminé, qui sont déjà dans leur poste de travail,
oui.
nous avions pris l'option de ne pas remettre en cause les diplômes qu'ils avaient reçus. Un sorte de droit acquis.
Voilà, continuez à nous appeler au 081-890-6394. Notre invité est là pour vous rendre service.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Voilà, appelez-nous au 081-890-6394 pour poser vos problèmes. Nous avons Aline Paulin, il nous appelle depuis quelle ville? Depuis Kindu. Paulin, bonjour. Paulin, vous êtes en ligne, bonjour. Paulin, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour, mais quel est le journaliste?
Oui, quel est votre problème, Paulin?
Oui, j'aimerais dire ceci, monsieur le journaliste, j'aimerais demander au ministre, il dit que la commission de viabilité n'existe pas dans notre institution. Alors, nous, tous les autres, terminer le cycle de graduat, nous devons continuer, si bien, ou bien nous devons faire, qu'est-ce que nous allons faire, monsieur le journaliste? C'est ce que j'aimerais demander au monsieur le ministre.
Oui.
Deuxièmement, j'aimerais dire ceci, au monsieur le ministre, la commission de viabilité par rapport au temps de classe, il existe des institutions au de la République qui n'ont pas reçu de classe. Je pense que le ministre doit remettre en cause de le professeur qui nous donne aussi tout, parce qu'il y a des professeurs qui arrivent ici. Par rapport au professeur, on a vu le professeur Yuma Magdalena qui nous donnait cours en deuxième graduat.
Oui. Paulin, merci pour votre intervention. Vous demandez qu'est-ce que vous allez devenir. Vous êtes à la fin du cycle des graduats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que le ministre avait déjà répondu à cette question. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, donc là, nous avions dit que d'abord, on supprimait tout ce qui est filière médicale, pas seulement au CIDEB, mais dans d'autres institutions publiques et privées. Là, je tiens à préciser, tous ceux qui n'ont pas les éléments de viabilité, il vaut mieux pour ce qui est secteur de la santé, il faut fermer. Deuxièmement, le Conseil des ministres considère qu'on ne peut pas continuer à faire organiser des filières techniques. Il y a environ 48 qui sont identifiés, là où manifestement nous savons qu'il n'y a pas de professeurs. Surtout au fur et à mesure qu'on s'éloigne de Kinshasa, la situation est encore plus dramatique, parce que si les gens sont honnêtes, ils vont vous dire que c'est des gens qui se soient assistants, c'est le magistrat du coin qui donne cours, c'est l'agronome du coin qui donne cours, et finalement, à la fin, vous dites, je suis universitaire. Donc, nous avons dit, tout ce qui est filière technique, quelle que soit sa forme, par rapport à la nomenclature des filières officielles du gouvernement, nous stoppons, quelle que soit l'année, là où se trouvent les intéressés.
Donc, Paulin, qui nous appelait de Kindu, il n'a qu'à aller à se rendre dans un autre établissement viable. Oui, pour
l'université de Kindu, qui est une très, très belle institution.
Oui.
Donc, tout le monde est fier. Et nous, c'est pour ça que nous avons laissé cette ouverture exceptionnelle pour que ceux qui réellement sont déterminés, qui ont le niveau, qu'ils puissent être en mesure de pouvoir passer le concours et être admis. C'est une mesure d'encadrement exceptionnel que le gouvernement a pris en tenant compte de cette soif des étudiants. Peut-être ils n'avaient pas été bien conseillés. Souvent aussi, c'est pour ça que nous lançons un appel et aux étudiants, aux parents, regardez quand même les ceux dans lesquels vous allez étudier. Il n'y a ni professeur, ni matériel, ni... Il n'y a rien, mais vous dites vous êtes dans une université. Et nous avons vu des universités, pas seulement le CIDEP, fonctionner dans des écoles maternelles. Quand vous voyez les petits bancs de maternelle, comment on peut penser un seul instant qu'à l'issue d'une formation dans de telles conditions, sans professeur, sans quoi que ce soit, vous soyez vraiment avec un diplôme? Donc, l'ouverture que nous avons donnée est que ceux qui peuvent s'adresser aux institutions et à Kindu, nous savons qu'il y a deux ou trois institutions qui ont une viabilité acceptable,
oui.
Il y a cette ouverture.
Alors, si par exemple, il a dit qu'il est au niveau de graduat, et s'il doit aller par exemple prendre son inscription dans un autre établissement, est-ce qu'on pourra l'accepter directement pour le niveau de licence, pour la licence?
Vous savez, il y a une autre notion souvent qu'on a oubliée dans notre pays, c'est ce qu'on appelle le contrôle de la scolarité. Quand vous vous présentez dans une institution, d'abord on vous demande vos bulletins, premier, deuxième, troisième graduat, on vérifie si le programme est suivi, si c'est le programme officiel. Quand toutes ces conditions sont réunies, vous passez votre concours qui est organisé par l'institution. Si vous le réussissez, ils voient si vous entrez, si vous recommencez l'année ou si vous montez. Donc, il faut absolument que cette ouverture que nous avons laissée pour ne pas pratiquement prendre en otage les compatriotes qui ont été consciemment et inconsciemment dans le CIDEP, qu'ils puissent, pour les filières non techniques, nous avons dit peuvent continuer, mais pas de recrutement, pas de redoublement, ou ceux qui pensent qu'ils ont le niveau voulu pour poursuivre ailleurs, cette ouverture, nous l'avons laissée pour donner la chance à des compatriotes qui, de bonne foi, se sont inscrits au CIDEP.
Voilà. Nous avons d'autres réactions. Il y a un auditeur qui demande qu'en est-il des étudiants qui sont en L1 communication et qui viennent de terminer leur session.
Bon, la communication fait partie de secteur technique et nous savons déjà toutes les difficultés que nous avons à travers les institutions techniques qui forment les spécialistes en communication. Les secteurs de sciences de l'information et de la communication font partie des filières techniques et le Conseil des ministres a décidé de pouvoir dès maintenant les supprimer. Et donc, il lui appartient de pouvoir s'adresser à une institution qui organise la même filière, oui, mais qui est remplie de conditions de viabilité. Donc là aussi, on va déterminer le niveau réel, passer le concours et pouvoir éventuellement, si réussi, à être récupéré. Autrement, nous ne pouvons pas fermer les yeux devant manifestement des personnes qui sont mal formées ou peu formées, mais que la nation, à travers le ministère, continue à diplômer. C'est en fait prendre en otage la société. Si elle ne se rend pas compte maintenant, oui, demain il va être trop tard et nous ne pouvons pas, en tant que gouvernement responsable, la tolérance zéro, c'est aussi avoir le courage de regarder à l'intérieur de son propre fonctionnement et se dire, ici, nous sommes en dessous des normes. Et donc, tout ce qui est en dessous des normes est un danger pour la société.
Oui.
Le gouvernement a décidé de ne pas finalement prendre notre population en otage en fermant les yeux comme on l'a fermé pendant tant d'années.
Voilà. Monsieur le ministre, nous avons d'autres auditeurs qui continuent à appeler. Vous voulez aussi participer? Faites-le au 081-890-63-94. Théodore nous appelle depuis Bounia et puis nous avons également en ligne Richard du CIDEP Lubumbashi. Théodore, bonjour.
Bonjour, monsieur. Je suis plutôt à Bounia.
Oui, Théodore, vous êtes à Bounia. Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation, c'est que je suis un ancien étudiant de CIDEP,
oui,
de la première promotion justement. Et maintenant que le ministre vient de prendre ses mesures, nous qui sommes déjà fonctionnels, nous avons fait toutes nos preuves de capacité. Maintenant, les diplômes que nous avions acquis à son temps, et deviendrait quoi? Sans valeur ou on les reconnaît encore? C'est ça la première préoccupation.
Oui.
Et la deuxième, je voulais plutôt dire à monsieur le ministre que, en prenant les mesures, il faudrait qu'il pense aussi à la situation démographique du pays. Et il y a beaucoup de non-compatriotes, à cause des guerres, à cause de ceci et de cela, n'ont pas pu étudier convenablement. Mais le Seigneur leur a donné la chance d'être travailleurs quelque part. Alors, ceux-là n'ont pas le temps d'aller à l'université en laissant le poste qu'ils occupent déjà. C'est ainsi que le ministre devrait au moins de ce côté-là penser, et en tenant compte justement de la situation démographique, que ces gens-là n'auront pas la chance d'étudier à l'université. Malheureusement, la volonté, ils en ont, mais ils ne peuvent pas aller à l'université. Que le ministère puisse penser vraiment ce qu'il faut faire pour ces gens-là.
Merci beaucoup, Théodore, pour vos deux questions. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous direz à Théodore qui nous appelle?
Oui, je tiens à rassurer Théodore et lui donner aussi une information qu'il n'a pas. Je pense que j'ai dit clairement que le Conseil des ministres, dans sa réunion du 22 juin, avait, dans le cadre des mesures conservatoires, tenu à ne pas remettre en cause les diplômes déjà délivrés, donc ils devraient déjà se trouver rassurés, et lui donner une information. La démographie, au maximum, nous sommes autour de 70 millions de Congolais. Mais la Chine a plus d'un milliard 500 millions. La Chine a 500 universités et instituts confondus. L'Inde a 1 milliard 200 millions. Il a 400 universités et instituts. Et la RDC, 70 millions, si je prends le chiffre maximal. Nous sommes déjà à 1200 universités et instituts, et ceci est encore impartiel. Il y a mon directeur du cabinet qui vient de rentrer de Mbujimayi. En une semaine, on vient de mettre en évidence plus de 20 nouvelles universités et instituts. Ici à Kinshasa, malgré tout ce qu'on a en train de faire comme mise à garde, on voit qu'il y a des gens qui viennent de mettre des affiches de nouvelles universités et instituts. Donc, il est important qu'on sache que la Chine aujourd'hui, qui est deuxième puissance économique mondiale, 1 milliard, plus d'un milliard 500 millions d'habitants, n'a que 500 universités et instituts. L'Inde et l'Allemagne, qui est la première puissance économique européenne, n'a que 330 universités et instituts. Et la RDC, plus de 1200. Sans professeur.
Oui, oui. Alors, monsieur le ministre.
Et donc, la démographie ne peut pas être un argument, surtout sans les moyens, à en fait une prolifération de structures qui vendent l'illusion.
Alors, monsieur le ministre.
Nous devons refuser de prendre nos parents et notre jeunesse en leur vendant l'illusion. Nous devons faire une politique de vérité. Nous assainissons, non pas pour tout arrêter, mais pour justement réconforter et réaffirmer la viabilité de ce qui existe et les nouvelles institutions que nous devons tenir en tenant compte des réalités sociodémographiques et environnementales. Et donc, nous devons nous assurer que le jeune Congolais qu'on forme et qu'on diplôme soit utile à leur pays, à eux-mêmes, à leur famille aussi, soit compétitif sur le plan international. Nous n'allons pas le faire en pensant que c'est au niveau de la RDC que nous allons inventer les critères de viabilité d'une institution d'enseignement supérieur.
Monsieur le ministre, par rapport au deuxième volet de sa question, il dit il y a certains, à cause de la guerre, bien entendu, qui n'ont pas pu étudier, suivre la formation comme il se doit. Aujourd'hui, ils travaillent, et quelque part, ils n'ont plus le temps de tourner à l'université pour suivre un enseignement classique.
Alors, non, je veux le rassurer aussi,
oui.
Mon ami Théodore. Bon, vous êtes à Kinshasa, vous voyez l'ISC. Il y a l'ISC jour, l'ISC soir.
Oui.
Et la plupart de ceux qui sont dans l'ISC soir sont tous des fonctionnaires. Et donc, vous savez, quelle que soit la ville dans laquelle on se trouve dans ce pays, vous verrez que la plupart d'établissements, justement, ont les cours du jour pour les étudiants. Et vous verrez que beaucoup d'autres, même en ont abusé, ils ont le cours de le volet soir pour permettre aux fonctionnaires de travailler. Donc, c'est une aussi préoccupation qui était prise en compte au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Ceci devrait rassurer ceux qui sont déjà en cours d'emploi. On ne leur a pas fermé les portes. Au contraire, c'est en améliorant le fonctionnement des institutions classiques qui peuvent aussi, qui ont le pouvoir de s'organiser, et ils le font, que ce soit l'ISC, que ce soit la plupart des institutions, ils organisent des cours du soir, et je vois la plupart des assistés à des collations de grades académiques, mais vous voyez que parmi les gens qui ont été diplômés dans les institutions classiques, il y a des fonctionnaires, parfois même des grands responsables.
Voilà. Mais il reste à savoir si à Bounia, les établissements de Bounia organisent également les enseignements le soir.
Bounia, il y a de très grandes institutions et de belles institutions. Je pense une des villes justement qui est en train de s'affirmer sur le plan académique, nous aurons l'occasion d'aller leur rendre la visite. Et je pense que lui qui est dans ce milieu, il sait qu'il y a des institutions publiques, mais également privées, qui réellement ont misé sur la qualité. Et j'encouragerai tous ceux qui tiennent vraiment à étudier à regarder là où ils mettent les pieds pour ne pas se retrouver après quelques mois dans une situation difficile. Nous avons, le gouvernement a décidé, toujours le lundi, le 22 juin, d'organiser l'enquête de viabilité et l'audit organisé sur l'ensemble du territoire. Nous allons déjà commencer ici à Kinshasa. Ça va se terminer par, soit, constater que c'est viable, on encourage, constater qu'il y a ceux qui sont intermédiaires, on leur donne les remarques, et qu'on s'est dit qu'il y a d'autres qui n'ont rien, que nous allons fermer. Mais les parents, les jeunes qui préfèrent aller s'inscrire maintenant, dans des institutions, manifestement, qui vont être fermés dans un mois ou dans deux mois. Est-ce que cela est responsable? Malgré les mises en garde, les décisions du gouvernement, la mise en garde de ce que fait le ministère, j'ai un appel, j'ai saisi l'occasion que je me donne pour dire aux parents, aux jeunes, oui. Regardez, posez les questions. Y a-t-il des professeurs? Y a-t-il des salles propres, donc des bâtiments qui appartiennent à l'institution? Est-ce qu'il y a des laboratoires? Est-ce qu'il y a des bibliothèques? N'amenez pas votre enfant ou bien vous, jeune homme, ne vous inscrivez pas dans une institution manifestement qui demain va être fermée. C'est aussi un devoir de conscience.
Voilà. Posez vos questions, continuez à réagir, écrivez-nous à action@radiocapi.net ou appelez-nous au 081-890-63-94. On se retrouve juste après ceci.
Radio Okapi, Okapi. Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi Service, une émission au service des populations. Eh bien, Richard, on va servir, rendre service à Richard qui est en ligne et nous appelle depuis Lubumbashi. Richard, bonjour.
Bonjour.
Oui, quel est votre problème?
Oui, j'ai un problème, c'est moi je suis en deuxième graduat.
Oui.
Et suite à la décision que nous avons suivie du ministre au conseil du gouvernement.
Deuxième graduat, vous faites quelle formation?
Pardon?
Vous faites quelle formation? Vous suivez quelle formation?
Oui, la communication.
Voilà, deuxième graduat en communication, allez-y.
Oui, la question que je voulais poser, si le ministre prenait cette décision de, comme ils ont déjà pris la décision, de suspendre toute l'inscription. Et la première question, si on suspend l'inscription pour le nouveau candidat, ou même la formation doit être suspendue. Si la formation est suspendue et qu'on donne l'opportunité aux étudiants qui sont encore déjà en train d'étudier d'aller s'inscrire dans les universités. Est-ce que pensez-vous pas que, monsieur le ministre, vous allez remplir les universités et que la condition va s'empirer de plus en plus dans les universités telles que l'université de Lubumbashi, l'université de Kinshasa et d'autres institutions universitaires? Et si vous prenez cette décision, est-ce que pensez-vous pas que ces étudiants qui viennent de ces instituts supérieurs, ISC, ISTEM, tous ces instituts, auront des difficultés dans les universités, car ils vont subir la question de discrimination? Parce que je vous rends témoignage que les étudiants qui viennent des institutions affiliées de l'université, telles que les institutions qui se trouvent dans le ville de Likasi, Kolwezi, qui viennent à l'université de Lubumbashi, ce sont eux qui sont de plus en plus refusés. Pourquoi? Parce qu'ils ont des formations si bas par rapport aux étudiants qui sont à l'université de Lubumbashi, et le professeur de l'université de Lubumbashi ne les considère pas. Est-ce que pensez-vous pas que ces mêmes étudiants qui viennent de l'ISC, de l'ISTEM, auront les mêmes difficultés? C'est vraiment ça, c'est ce que je voulais poser.
Voilà, merci Richard pour votre préoccupation. Monsieur le ministre, il dit que s'il quitte SIDEP, si plusieurs étudiants doivent quitter au même moment SIDEP pour aller à l'université de Lubumbashi, par exemple, on risque de se retrouver devant un grand nombre d'étudiants. Est-ce que l'université de Lubumbashi a la capacité d'accueil qu'il faut pour tous ceux-là qui vont venir? Et puis, il a évoqué également un problème de discrimination. La plupart des étudiants qui quittent les autres établissements pour aller à l'université de Lubumbashi, ils sont refusés, il y a discrimination d'après lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Richard?
Merci Richard, je voudrais le saluer et dire que je connais bien, un peu bien la situation de Lubumbashi et du Katanga. D'abord, je voudrais lui dire que les sciences de l'information et de la communication, c'est dans les filières supprimées, ça se trouve au numéro 10. Nous sommes en train de diffuser sur l'ensemble du pays, donc c'est une filière qui est supprimée parce qu'elle fait partie des filières techniques. Donc, ici, lui laisse l'alternative certainement d'identifier à Lubumbashi ou dans les villes voisines l'institution qui organise normalement cette filière et de pouvoir se présenter contrôle de scolarité, mais également aussi passage du concours s'il tient à continuer dans cette filière. Le deuxième aspect est sur la discrimination. Je dirais discrimination oui et non. Discrimination, c'est un phénomène qui est visible dans toutes les sociétés, et pour lesquels les autorités, en commençant par le ministre, doivent être très attentifs pour donner les mêmes chances à tous les compatriotes. Il y a un problème qui peut se poser. Nous avons fait le tour dans cette province. On a vu des extensions qu'on a créées ici et là, et dont la plupart ne remplissent pas les conditions. Et donc l'enquête de viabilité va certainement aboutir à leur assainissement. C'est pour cela que nous insistons que même en contrôlant la scolarité au niveau de l'université de Lubumbashi, par exemple, il y a certainement des étudiants que nous devons être en mesure de pouvoir faire partir de l'enseignement supérieur. Je vous donne un exemple. Le contrôle de scolarité nous a montré dans une institution de la place ici que plus de 50% d'étudiants n'avaient pas un diplôme d'État dans leur dossier. Vous avez suivi, c'était sur Radio Okapi, à l'université de Lubumbashi, lorsque on a découvert qu'il y a des gens qui arrivaient même en deuxième doctorat sans avoir eu leur diplôme d'État. Mais ma position était très claire. La loi est claire aussi. Le contrôle de la scolarité doit montrer qu'on a suivi un cursus depuis le secondaire jusqu'à l'année où on est, en ayant les preuves qu'il y a des bulletins et les fiches de cotes. Donc, c'est pour cela que déjà pour cette première année, nous avons revu les conditions d'admission, un diplôme d'État avec minimum 60%. Pour ceux qui ont entre 50 et 59, nous faisons passer le concours, mais en insistant que les conditions pour inscription, c'est d'abord la capacité d'accueil. Donc, il oui. va sans dire que ceux qui se retrouvaient à l'université ou dans les études par accident, certains avaient des diplômes sans passer les examens. Nous en avons des preuves, on n'avance pas les choses. Je pense que les vrais étudiants, même ceux qui quittent le CIDEP, je sais qu'il y a des vrais étudiants parmi eux. Je ne doute pas un seul instant qu'ils pourront passer le concours et le réussir et être intégrés. Donc, je vous suis d'accord avec Richard, nous oui. devons être attentifs pour combattre toute forme de discrimination, mais encourager aussi les Congolais à compétir, à passer le concours. Et je vous assure, les méritants, ils vont réussir, et nous serons fiers de les voir prendre une filière normale, classique, dans une institution habilitée par la loi, et demain, les compter parmi les cadres qui vont être au service de la nation. Oui.
Alors, Monsieur le Ministre, vous parlez vous avez lancé un appel aux parents pour ne pas laisser aller inscrire leurs enfants dans des universités qui ne répondent pas aux critères, qui sont pas viables. Ben, il serait peut-être intéressant de publier déjà cette liste de ces universités pour que les gens sachent déjà qu'ils soient informés et pour ne pas aller se rendre dans ces établissements-là.
Bon, je pense que c'est l'occasion encore pour rappeler quels sont les critères d'une institution d'enseignement supérieur universitaire. C'est d'abord les parents doivent se poser, les jeunes doivent se poser, est-ce qu'il y a des professeurs? Les professeurs, c'est pas toute personne qui dit, moi je suis professeur assistant. Les assistants ne sont pas des professeurs. Les chefs de travaux ne sont pas des professeurs. Les professeurs sont bien connus, ceux qui ont été nommés par un qui ont une thèse et qui sont soit professeurs associés, professeurs full ou professeurs ordinaires. La deuxième question, est-ce que l'établissement a ses bâtiments propres avec des auditoires, avec bibliothèques, avec pour les filières techniques des laboratoires? C'est des choses que l'on peut voir et qu'on peut vérifier. Et troisième autre élément, c'est de savoir si l'institution est autorisée. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de ces états qui mettent de très belles affiches avec de belles couleurs. Mais vous entrez oui. à l'intérieur, il n'y a pas de banc, il n'y a rien.
Alors, Monsieur le Ministre, prenons par exemple les cas de l'INA, qui est aujourd'hui menacé de déguerpissement. Cet établissement avait ses propres bâtiments, là où se trouve aujourd'hui le stade des martyrs. Donc, ils ont été délogés pour construire, pour la construction du stade. Aujourd'hui, ils sont menacés de déguerpissement là où ils sont. Alors, et il y a également les cas de l'IFASIC, cet établissement qui avait son propre terrain, mais qui a été spolié. Alors, par rapport à ces deux établissements, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Il faut aussi ajouter l'Institut supérieur de statistiques. Vous savez, pour l'INA, je pense que au niveau du Conseil des ministres, en tenant compte du fait que l'État, en décidant de construire le stade des martyrs en détruisant le Cultrana, qui était le siège de l'INA, et en voyant un peu l'errance dans laquelle se trouve cette institution, nous avons, au niveau du Conseil des ministres, décidé qu'on puisse obtenir qu'il y ait un modus operandi qui permette aux propriétaires de laisser l'institution organiser momentanément ses enseignements tout en jouissant de quelques bureaux sur place. Mais si vous avez été attentif, ça fait au moins, j'ai déjà écrit plusieurs lettres au ministre des Affaires foncières et samedi nous étions avec lui et nous sommes en train d'identifier là où on doit trouver le terrain pour l'INA, pour l'IFASIC, pour l'Institut supérieur de statistiques, mais également pour d'autres services du ministère comme le CELTA, comme les presses universitaires. C'est une préoccupation réelle du gouvernement. Nous sommes en train non seulement au niveau du gouvernement de nous mobiliser, et aussi de voir aussi dans le cadre de la coopération si l'un ou l'autre partenaire peut nous aider, notamment pour l'INA, qui est une grande institution, et l'IFASIC, de pouvoir disposer non seulement des vrais terrains avec des vrais campus où il y aurait non seulement les auditoires, les laboratoires, je vois pour l'IFASIC il faut les studios, pour l'INA il faut des bâtiments séparés en fonction des filières parce qu'ils ont des spécificités merveilleuses mais qui pour le moment sont confinées. Et donc c'est un souci que nous avons et nous sommes déterminés à nous battre pour que au niveau du gouvernement on puisse avoir une adresse fixe qui est de construction des campus et que nous puissions être en mesure d'installer correctement ces institutions uniques. Vous savez, l'INA est la seule institution d'Afrique centrale. L'IFASIC a été la toute première institution universitaire aussi dans la région pour former les hommes et les femmes de la communication. L'Institut supérieur de statistiques a été la toute première institution privée qui est devenue institution publique et dont on a besoin pour former les spécialistes en statistiques. Et donc, c'est vous dire que nous avons ce souci et nous ne ménageons aucun effort pour que ce fait-là puisse se trouver à court et à moyen terme de solutions définitives.
Mais on peut dire que ces établissements ne répondent pas aux critères de viabilité parce qu'ils n'ont pas de bâtiments propres.
Ça fait justement un des problèmes. Ils ont un corps professoral, ils ont l'équipement, que ce soit l'INA, vous voyez, ils ont l'équipement pour former, ce n'est pas seulement une formation théorique. Et il y a des hommes et des femmes qui ont un très haut niveau de formation, c'est déjà le critère principal. Vous voyez, la qualité des étudiants aussi, elle est remplie, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas une formation secondaire de base. À l'IFASIC, non seulement je vois les divers studios, radio, télévision, je vois le journal, l'école, tout en étant les trois, on voit qu'ils ont un corps professoral, ils ont la bibliothèque, ils ont le matériel didactique. Donc, on peut avoir l'ensemble des éléments, mais on peut avoir l'un ou l'autre critère qui est pris en défaut.
Oui.
Mais cela ne change rien, c'est que l'INA, l'IFASIC, et l'Institut supérieur des statistiques, ils ont, sur l'ensemble des quatre grands groupes de critères de viabilité, au moins trois qui sont acceptables. Et donc, vous voyez ce que je vous ai dit, à l'issue de l'enquête de viabilité, il y aura des institutions qu'on va classer viables, d'autres qui sont viables, mais qui, il faut améliorer l'un ou l'autre aspect, et ceux qui, manifestement, ne répondent à aucun des critères de viabilité et qui seront purement et simplement formés. Et c'est pour ça qu'il faut essayer pour que les parents et les jeunes se renseignent, qu'ils ne soient pas attirés par les affiches qui sont collées dans leurs villes respectives, parce que si vous vous trompez, demain, ne dites pas que l'État n'a pas attiré votre attention.
Voilà, Robert nous appelle de Matadi et nous avons également Kassongo qui nous appelle de Bandundu. Nous commençons avec Robert. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Oui, je commence par saluer le professeur qui est un collègue du Parlement de Transition, où j'y étais moi-même. Et il nous a gratifié de son expertise en ce qui concerne l'enseignement et la santé au niveau du Parlement. Bonjour, professeur. Et je voudrais dire ceci. Moi-même, un ancien CIDEP. Et mon inquiétude, c'est que nous prenons parfois des mesures qui, par la suite, sont relâchées. L'inquiétude que j'ai, c'est par rapport à l'incise que vous avez mise en disant jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi jusqu'à nouvel ordre? Au lieu de prendre carrément une décision et ne pas laisser une ouverture que peuvent profiter ceux qui sont champions en velléité de toute nature, professeur.
Merci Robert pour votre intervention, mais on se rend compte que vous n'avez pas une préoccupation, Robert, c'était juste une question. Alors, nous prenons Kassongo qui nous appelle d'Ivan Dundu. Kassongo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, oui.
Moi, c'est monsieur Kasson Gauthier. Je suis étudiant au droit, Fidel Mandindou.
Oui.
C'est par rapport aux déclarations des ministres. Nous savons, c'est par rapport aux arrêtés, les multiples arrêtés des multiples ministres qui sont passés. Mais je suis bien sûr qui sont passés. Mais Fidel organise, je cite, les formations à court terme, à moyen terme et à long terme.
Oui.
Et par rapport aux formations à long terme, là, les enseignements qui sont donnés sont des enseignements que j'avais terminé ça. Eh bien, le ministre évoque le conseil des ministres qui a eu lieu au mois de juin de l'année en cours. Et pendant le mois de juin, il y avait le CIDEP organisé déjà des classes et troisième graduat, sauf des licences aussi. Moi, je ne sais pas si l'on parle de l'octroi des brevets ou des certificats. On parle pour des promotions qui viendront ou on parle pour des promotions qui sont la tête et nous autres qui sont en troisième année aujourd'hui. Et donc, nous savons encore, je vais vous rappeler, que le ministre, je ne dirais pas seulement le ministre, mais il y a Kinshasa qui a envoyé les gens pour qu'on donne l'argent de l'entérinement de diplômes que nous attendons aujourd'hui. Mais jusque-là, nous ne savons pas la décision qui est tombée là. Au lieu que la radio nous parle, les journalistes, tout ça nous aimerait bien que le ministre lui-même nous parle. Pour ceux qui sont aujourd'hui en troisième, il y en a qui ont déjà été collés, il y en a dont le défense, c'est dans quelques jours, il y en a. Le ministre peut nous préciser. Est-ce qu'on donne de certificats à ceux qui ont fait la formation à long terme dont les enseignements ont été universitaires, où l'on donne des certificats à ceux qui suivront les formations comme dans la première mission du CEDEP.
Voilà, monsieur le ministre Machako a suivi certainement. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous direz à Kasongo de Bandundu?
Non, je voudrais d'abord saluer l'honorable Robert et lui dire que nous sommes très reconnaissants et très attentifs.
Oui.
Je pense que le gouvernement a pris une voie de non-retour. Je voudrais le rassurer. Mais le gouvernement aussi, tenant compte du terrain, a tenu à prendre des mesures conservatoires pour accompagner la fin de l'université ouverte. D'abord, en supprimant purement et simplement tout ce qui est technique, en commençant par les filières médicales, mais également en décidant de ne plus accepter le recrutement pour les filières qui restent en premier graduat, donc la classe de recrutement du premier cycle, en première licence, ceci va me permettre de répondre à Kasongo,
oui,
pour ceux qui sont en troisième graduat, et bien sûr supprimer le troisième cycle, le DA et le doctorat, parce que manifestement, il n'y a aucun professeur éparpillé dans les plus de 400 sites du CIDEP pour pouvoir mener le troisième cycle.
Oui, et Kasongo dit, ils avaient déjà envoyé l'argent à Kinshasa pour l'entérinement de leur diplôme. Ils attendaient leur diplôme. Certains ont déjà été même collés. Alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir aujourd'hui?
Oui, mais justement, c'est là où je reviens maintenant à mon ami Kasongo, que
oui,
je salue.
Mmh.
Il a très bien dit qu'il y a des arrêtés qui ont donné la possibilité au CDP UO de donner des formations à court, moyen et long terme.
Oui.
C'est là où, justement, par rapport à la mission qui est définie tant dans l'ordonnance loi 025 et dans l'ordonnance 154, respectivement du 3 et du 7 octobre 81, il n'est pas reconnu cette possibilité de pouvoir organiser des formations à long terme, donc en fait les formations classiques. Je pense que avec beaucoup de sagesse et de responsabilité, le gouvernement a dit à l'issue du conseil du 22 juin qu'il ne remettait pas en cause les diplômes antérieurs. Je pense là aussi c'est une chose peut-être que les gens oublient d'entendre et que nous tenons à préciser.
Donc, M. Kasongo, il peut se calmer, il aura bien son diplôme.
Bon, maintenant, j'ai dit, les diplômes antérieurs ne seront pas mis en cause.
Oui.
Maintenant, pour ceux qui restent dans le cursus, d'abord ceux qui ont été le troisième graduat, comme il n'y a pas de recrutement en première licence,
oui,
et en se rendant compte d'ailleurs aussi que même pour la licence, ils n'ont pas de professeurs là où ils sont, Donc, nous tenons à ce que celui qui tient son troisième graduat s'arrête là ou alors s'adresse à une filière, à une institution classique qui peut lui permettre d'aller jusqu'au bout si la vérification du cursus scolaire permet d'affirmer qu'il remplissait les conditions pour passer d'étape en étape.
Voilà. Nous avons...
Alors,
oui.
Maintenant, les autres problèmes, ceux qui sont déjà en cours, là, c'est un problème de l'administration centrale du ministère. Ce sont des problèmes qu'on va examiner le cas par cas pour être en mesure de pouvoir fixer les personnes qui seraient dans la situation comme celle de notre frère M. Kassong.
Mais il demande, est-ce que les autres vont recevoir des brevets ou c'est ça, ils vont recevoir des diplômes? Voilà.
Mais en tout cas, au regard de non seulement du manque de professeurs, du manque de matériel didactique, outre les filières qui sont techniques qui sont fermées, donc là c'est même on ne peut plus revenir sur ça.
Mm-hmm.
Nous allons examiner et là nous revenons sur les deux diplômes ou les c'est pas le diplôme, c'est les termes on disait capacitariat ou bien les certificats de stage. C'est certainement le conseil à instruire le ministère de l'enseignement supérieur de pouvoir analyser, réfléchir sur le l'intitulé du document qui va sanctionner le cursus.
Oui.
C'est pour ça qu'il est important de continuer à suggérer à ceux qui savent qu'ils ont un bon niveau et qui se sentent la force de pouvoir s'adresser aux institutions dont les filières sont semblables à celles qu'ils suivaient pour peut-être demain ne pas se retrouver avec un papier qui ne correspond pas à ce qu'ils ambitionnaient. Parce que finalement, c'était dans d'autres mondes, il fallait avoir un diplôme. Et là, devant la gravité, l'extrême gravité de la situation, le gouvernement ne veut pas qu'il y ait des institutions. Aujourd'hui, c'est le CIDEP, demain, il y a d'autres. Parce qu'il y a d'autres qui continuent aussi à avoir un rectorat ici à Kinshasa et qui sont en train de se multiplier partout.
Oui, monsieur le ministre.
Donc, une usine de fabrication de diplômes, le gouvernement ne tient pas à ce qu'on laisse perdurer un tel système dans notre pays.
Voilà, monsieur le ministre Macha Komamba, nous vous disons merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie pour cette détermination de Radio Capi d'instruire le plus possible les Congolais en allant directement à la source.